Que Dieu bénisse les combattants d'aujourd'hui. C'est vous qui tenez l'étendard de l'Évangile. Si nous n'étions pas là, il n'y a pas que nous, bien sûr. Je pense que le monde serait privé de lumière. Je voudrais que nous parlions aujourd'hui du combat de la foi. Bienvenue aux frères et sœurs qui nous rejoignent. Pas facile de stationner, ça va ? On va lire ensemble dans Timothée, 1 Timothée. Chapitre 1er, verset 18. Soyons attentifs à cet enseignement qui nous concerne vraiment dans notre génération, dans ce temps particulièrement trouble, mais l'évangélisation reste le champ ouvert. C'est la mission que le Seigneur nous confie. Vous m'entendez bien ? Ça va, Joseph ? Il faut lever la main quand ça va, parce que je ne... Non, ça va pas. Ça va, merci. Parce que si vous faites avec un petit clin d'œil, je ne peux pas vous voir. Je n'ai pas des yeux assez bons. Alors, oui, le bon combat de la foi. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Le ton est un peu sévère. Les combats, ce n'est pas facile. 1 Timothée 6, verset 11. 1 Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, ce qui est droit et vrai, la piété, la ferveur, le service de Dieu, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er. 2 Timothée 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses. Amen. Et je vous les rappelle. Frères et sœurs, je prie le Seigneur à vous. Seigneur, mets ton esprit en moi et en chacun de mes frères et sœurs, afin que ce matin nous prenions conscience de l'enseignement que tu donnas aux premières églises et à plus forte raison à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bénis-nous dans cette matinée de méditation et d'adoration. Amen. Dans la première lecture que je vous ai faite, c'est le combat de Jacob avec un ange, la nuit. Jacob était devenu un homme d'affaires. Il comptait les moutons. Un berger qui a prospéré. C'est beau. Comme on dit parfois, le Seigneur me bénit. Oui, mais il y a peut-être mieux que ça. Et la vie, ce n'est pas des moutons qu'on ajoute. C'est aussi faire quelque chose d'éternel avec le Seigneur. Pardonnez-moi l'expression, Jacob a décroché. Il y a eu un décrochage. Il a menti à son père. Il a fui la maison paternelle. Il a triché avec son beau-père, etc., etc. Et puis on ne voit plus l'homme de Dieu qu'on croyait voir. Jacob a décroché. Qui a décroché parmi nous? Et puis, une nuit, seul avec Dieu, c'est bien, quand on a des moments seuls, le Seigneur a plus de liberté pour nous parler. Il a rencontré Dieu. Quelqu'un le prend et le plaque au sol. Il est pris par la tunique et il est roulé par terre. Le mot est bien l'expression « dans la terre ». Une nuit de combat où un ange est en train de combattre contre lui, mais contre le mal qui l'a aveuglé, qui l'a endormi, qui l'a anesthésié. Et puis cet ange, ce qui est Dieu lui-même, c'est le Christ qui lutte. Il veut que Jacob combatte contre tout ce qu'il a étouffé pendant toutes ces années. Il veut que Jacob devienne un combattant. Alors l'ange le secoue, le réveille. Puis Jacob, c'est le miracle. J'espère que ça vous arrivera. Ça nous arrivera. Jacob, dans ce combat, il s'accroche à Dieu, il ne le lâche plus. Et Dieu veut partir. « Laisse-moi aller, dit le Seigneur, laisse-moi aller. Non, je ne te laisse pas aller. Non, je ne te laisse pas aller. » Jacob s'accroche au Seigneur, il devient un combattant. Frères et sœurs, Jacob a dû passer par cette conversion pour devenir le patriarche de Dieu. Car en trois générations, Abraham, Isaac, Jacob, en trois générations, il y a eu une baisse. Le niveau spirituel a décliné. C'est plus le grand-père, Jacob. Le grand-père, il dit à Abraham, il dit, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, on ne peut pas te dispute. Si tu prends la bonne terre, ben, prends la bonne terre, il se laisse, c'est la bonne patte. Abraham, il est ouvert à la paix. Il préfère la paix. Jacob, un sou, c'est un sou. On ne va pas laisser un mouton comme ça. Un mouton, c'est un mouton. Il gagne. Jacob, c'est un homme d'affaires. Mais il n'invoque pas le Seigneur. Il a réussi matériellement. Il a une famille avec 13 enfants. C'est beau. Mais il n'est pas la bénédiction pour les familles de la terre. Il a sa famille, mais Dieu lui dit, tu seras par toi, les familles de la terre seront bénies. Il ne faut pas regarder que notre petite bénédiction matérielle du moment. Alors il va passer par cette conversion pour qu'il puisse dire, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et pour qu'il devienne un combattant pour Dieu, un homme de Dieu. Parce que chez Jacob, il y a des idoles cachées sous la table, parce qu'il y a des violences, ses enfants vont être très violents. C'est une belle famille, mais il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de disputes. On va même vendre un de ses enfants, Joseph. Jacob va devenir un combattant pour Dieu. Il finira majestueusement entouré de tous ses enfants comme le patriarche de l'histoire, de l'humanité. Je suis allé chez Timothée, chez l'apôtre Paul. Et là, l'apôtre Paul, il va aussi élever Timothée dans une époque très difficile. Il va élever Timothée au rang de combattant, de disciple. Il va l'élever très haut dans le combat pour Dieu. Fuis les passions de la jeunesse. C'est un combat de fuir. Il faut du courage pour fuir certaines tentations. Il faut du courage pour dire non. Il faut du courage pour dire oui. Et l'apôtre Paul va travailler l'âme de son disciple en lui disant, recherche avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, recherche la charité, recherche la paix, recherche la foi. C'est un combat que d'être charitable, doux, patient, aimable avec des gens acariâtres et difficiles. C'est un combat que de ne pas répondre. C'est un combat. Et je crois que le Seigneur, à travers l'apôtre Paul qui donne là dans les épîtres à Timothée, c'est le dernier message de Paul. Paul est en prison. Il va mourir dans quelques jours. Et avant de mourir, il va laisser un testament à son disciple Timothée. Un testament qui se résume en un mot, combat. Paul disait ses derniers mots. Quel beau livre de Timothée. Le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Mais malgré qu'il est prêt à mourir, on va le décapiter probablement à Rome. Paul, qui n'est pas encore très vieux, il a gardé l'ardeur du combat de la foi et pour la foi. Il a gardé cette vigueur. Quand il dit à Timothée, il va mourir Paul, mais il dit « souffre avec moi encore comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Il va mourir, mais il reste le soldat. Il ne baisse pas les armes. Il reste le serviteur de Jésus, serviteur de l'Évangile. Il reste le laboureur patient. Il reste l'apôtre inlassable. Bien sûr, on m'a dit, quand même, votre Évangile, je le trouve un peu dur parce que l'Évangile, c'est la paix, c'est la joie, bien sûr. Et alors vous parlez de soldats, vous parlez de militaires, vous parlez de combat, vous parlez de guerre spirituelle. C'est étonnant, mais je crois qu'il nous faut nous battre pour ne pas perdre ce que le Seigneur nous a donné. Il faut se battre contre soi-même, ne pas perdre ses dons, ses talents, ses richesses, ne pas perdre et garder le dépôt en nous de la parole de Dieu. Ça demande de la vigueur, de l'énergie, de la prière, des combats. Pour rester jusqu'à l'arrivée là-haut, un ouvrier qui n'aura pas à rougir quand il se présentera devant le trône de Jésus. Il faut être un ouvrier qui n'aura pas à rougir de ses paroles, de ses abandons, de ses actes, de ses pensées. Ça demande des combats. Amen. Il faut se battre pour ne rien perdre. Alors Paul, il va stimuler Timothée qui est jeune, que personne ne méprise ta jeunesse. Il va stimuler Timothée. Il va réanimer la flamme de Timothée parce que l'époque qu'il traverse est très difficile dans les églises et dans le monde. Il va réenflammer le don qui est en lui, le don de Dieu, c'est-à-dire son appel, sa vie avec Dieu, sa communion avec Dieu. Parfois, on s'assoupit, on dort. Il va, je t'exhorte à réanimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Je pense que nous devons dire merci à l'apôtre Paul, nous lui dirons merci dans le ciel. Parce que j'ai reçu moi-même beaucoup de lui, et Timothée a reçu un exemple magnifique, et toutes les églises le remercieront, car il a été appelé pour être un témoignage pour les églises de toute l'humanité. Il n'a pas déposé les armes du ministère, les armes de la foi, les armes du combat, il ne les a pas déposées avant l'arrivée dans le séjour céleste. Il n'a pas déposé les armes. Il n'a pas renoncé. Au tribunal devant l'empereur de Rome, le tyran Néron, au tribunal, l'apôtre Paul dira, « Le Seigneur, tous m'ont abandonné. Personne m'a pris, a pris ma défense. Personne. » Terrible. On l'a abandonné au tribunal de la condamnation. Mais Paul dit, « Mais le Seigneur m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie, même au tribunal, et que les païens l'entendent, même au tribunal. » Je pense que l'apôtre Paul, il a vécu ce que beaucoup de chrétiens et d'apôtres ont vécu. « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à travers vous. » Et Paul, jusqu'à la fin de sa vie, il reste le prédicateur de l'Évangile, il reste l'apôtre, il ne baisse pas les armes, il va mourir, mais il continue d'annoncer au tribunal Jésus-Christ. C'est un exemple, on a besoin d'exemples. Je crois dans la force de l'exemple, pas dans des paroles, mais la force de la vie qui dit voilà ce que signifie vivre en chrétien. On a besoin de ça, parce que souvent, au milieu de l'abondance des richesses et des soucis de la vie, nous fléchissons un peu, nous faiblissons. Quand on a l'impression que ce que nous faisons ne sert à rien, alors on baisse un peu les bras, on vient moins, on ne trouve pas intéressant de prier, de lire la parole de Dieu. Mais Paul, à la fin de sa vie, il a quelques jours à vivre, c'est son dernier pas. Il dit à Timothée, « Sois un modèle pour les fidèles dans ton combat pour la charité, dans ton combat pour la pureté de tes paroles, de tes actes. Sois un modèle jusqu'à ton dernier souffle. » Combat. À cette époque, Timothée était à Éphèse, nous ne l'oublions pas. Éphèse, c'était probablement l'une des églises les plus florissantes du début de l'histoire. Une église où on ne sent pas des problèmes, on ne sent pas des gens qui se battent. On sent une église qui avance sur les fondations de l'Évangile. Une des plus belles épîtres, c'est l'épître aux Éphésiens. Et puis, quand il écrit à Timothée, Timothée, là, il est toujours à Éphèse. Éphèse a été ouverte par l'apôtre Paul, il y a mis après Timothée, et quand il écrit à Timothée, c'est à Éphèse, mais là, nous sentons un fléchissement. Nous sentons un affaiblissement de l'église d'Éphèse. Où ? On entend des gens qui disent, Nous voulons entendre des choses agréables. Nous voulons entendre des choses simples, qui ne compliquent pas la vie. On a la démangeaison, on a envie d'entendre des choses faciles, agréables, pour ne pas dire festives dans notre langage moderne. Et Paul dit à Timothée, 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 il faut que tu reprennes ces gens-là. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, de son apparition, au nom de son avènement. Prêche la parole, censure, reprends. Ne te laisse pas éteindre par ces gens qui te demandent des choses faciles. Le ton a baissé. En 3 générations, Abraham, Isaac, Jacob, en 3 générations, Éphèse, la florissante, au temps de Timothée, s'abaisse, et on retrouve Éphèse dans l'Apocalypse, 28 ans plus tard. Tu as abandonné, Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. J'ôterai le chandelier de ta place. Tu ne brilleras plus devant le monde. Repens-toi, reviens, reconvertis-toi, s'abaisser. Tout n'est pas mauvais, à Éphèse, même à la fin, mais s'abaisser. Le temps est notre ami et notre ennemi. Grâce au temps, on se forme pour le royaume des cieux. Mais avec le temps, on peut baisser dans notre virulence et notre force spirituelle. Il y a un travail de destruction aussi. Un ennemi sème de l'ivraie là où le Seigneur a semé du bon grain. Il y a un travail de destruction pendant que nous dormons. Le déclin de l'église d'Éphèse, on le voit dans l'épître à Timothée. On voit que c'est un clignotant, l'épître à Timothée. Attention, attention. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans cette époque-là. À quoi je vois ça? Ben, j'ai rempli des pages, mais je ne vais pas pouvoir vous lire toutes les pages ce matin. Paul dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. L'Asie, c'était l'extrémité de la Turquie, c'était Éphèse, c'était Colosse, etc. Tous ceux que j'ai évangélisés, tous ceux que j'ai baptisés, des milliers, partout où je suis passé, ils m'ont tous abandonné. Parce qu'ils préfèrent entendre des paroles agréables. Déclin. Le rejet de l'homme de Dieu, c'est un rejet de la parole de Dieu. Et l'apôtre dit, parce qu'ils veulent entendre des paroles qui ronge comme la gangrène. Autrement dit, des paroles qui vont renverser la foi. Et il y avait un Hyménée et Philète, c'était deux chrétiens de l'église d'Éphèse, au temps de Paul et de Timothée, et ils disaient, la résurrection, c'est déjà fait, nous sommes tous ressuscités. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de changement, on restera comme ça. On est déjà ressuscité. Et la foi des chrétiens était ébranlée. Frères et sœurs, à Éphèse, il y avait des hommes comme les magiciens face à Moïse qui s'opposaient aux paroles de l'apôtre Paul, qui s'opposaient aux paroles de Timothée. En particulier, un forgeron qui s'appelle Alexandre. Et Paul dit, « Méfie-toi de lui, il m'a fait beaucoup de mal. » Il s'est opposé fortement à nos paroles. Il ne dit pas à mes paroles, à nos paroles. Ce n'est pas un problème personnel. Il s'est opposé à Dieu. En fait, il a péché contre le Saint-Esprit, cet Alexandre. Et maintenant, le combat continue avec Timothée. Méfie-toi de lui. Attention, il va s'opposer à tes paroles. Nous sommes dans cette époque-là, où il y a besoin de comprendre le besoin de combattre, de résister, d'endurer, de supporter, de continuer. Dans l'Apocalypse, on retrouve Éphèse, je vous l'ai dit. Le Seigneur envoie un message à l'église d'Éphèse en lui disant « Je sais que tu as souffert et que tu ne peux pas supporter les méchants. » Donc il y avait des méchants à Éphèse qui résistaient aux paroles des apôtres, aux paroles de Dieu. En quittant Éphèse, l'apôtre Paul disait dans les Actes des apôtres, tout le monde était autour de lui, c'était la bonne époque. Et les gens pleuraient, et les anciens étaient là. Paul quittait Éphèse. Mais avant de partir sur la plage, l'apôtre Paul a dit à tous ces anciens qui étaient autour de lui, à toute l'église, il a dit « Attention, je sais qu'il s'introduira des loups cruels au milieu de vous, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui diront des choses pernicieuses afin d'entraîner les églises. Et je n'ai pas cessé, à cause de cela, de vous encourager, de vous exhorter pendant 3 ans, jour et nuit. » Et pas le temps de faire la noce. Hein. « Jour et nuit, je vous ai exhorté avec larmes, parce que les temps que vous allez vivre seront des temps difficiles où il faudra combattre. » L'apôtre Paul savait qu'il y aurait un changement dans l'Église, dans les Églises, que le diable allait se déchaîner. Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher le catastrophisme, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais aujourd'hui, les églises sont attaquées. Celles qui travaillent sont attaquées. Celles qui dorment ont déjà été attaquées. C'est la vallée des ossements. Ils dorment. Frères et sœurs, je vous exhorte à combattre dans tous les domaines de votre vie pour conserver la foi comme une lampe allumée. Paul dit à Tite, juste avant de mourir, « Démas m'a abandonné pour le présent siècle, c'est-à-dire pour le monde. Démas m'a abandonné pour repartir dans le monde. » Et ça, ce sont des découragements pour un pasteur quand il voit quelqu'un qui était là fidèle et qui abandonne l'Église pour retourner dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et tout ce qui est dans le monde est opposé, est ennemi de Dieu. Alors vous comprenez dans cette décadence de l'Église des premiers temps, dans tout ce mouvement-là, le jeune Timothée, il a besoin d'être encouragé. Il est pasteur de l'Église d'Éphèse, une grande Église. Et l'apôtre Paul dit, « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, sois fort, combat. » Ça veut dire, applique-toi à la lecture, parce que la lecture des Écritures, elle va te donner de la force, elle va te corriger, elle va t'instruire pour que tu deviennes un homme fort, un homme de résistance, un homme de Dieu. Applique-toi à la lecture, trouve ta force dans cette grâce que Dieu va te donner. Tu t'appuies seulement sur Dieu, tu confies tout à Dieu, tes soucis dans l'Église, tes problèmes de santé, parce qu'il avait des problèmes de santé, tu confies tout à Dieu et Dieu sera avec toi. Mais prêche, n'arrête pas de prêcher. Au nom de son royaume, dit Paul à Timothée, au nom de son apparition, devant les anges, je t'en supplie, Timothée, prêche la parole, pas tes rêves, pas tes déductions théologiques, prêche la parole, annonce le Christ, parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la parole de Dieu. Ce temps-là, il est là. Il faut combattre pour serrer la parole dans notre cœur, pour la mémoriser. J'essaie de la mémoriser le plus possible. J'essaie de la lire et de la relire sans cesse. Quand on lit un roman, on lit une fois. Moi, je ne lis plus de roman depuis longtemps. On lit une fois, puis c'est bon. On connaît à la fin qui a tué l'autre. Mais la Bible, chaque mot, nous laisse entrevoir un monde. et on n'a jamais fini de découvrir tous les sens du mot. Alors, pour travailler cette parole, il faut combattre, parce qu'on est parfois fatigué, occupé, on n'est pas intéressé, il faut combattre. Et même, il fallait que Timothée combatte pour rester l'ami de Paul, parce que Paul était très mal vu. Tout le monde l'avait abandonné. Parfois, j'ai un peu de mal à y croire. Je me dis, mais c'est pas possible quand même. L'apôtre Paul, cet homme arraché comme un tison du feu, comment se fait-il qu'on ait abandonné un tel homme? Il a eu ses moments difficiles au début, bien sûr, contre l'Église, mais il est devenu l'apôtre, l'envoyé. Alors, on ne parlait plus à Paul. Et l'apôtre Paul, il dit à Timothée, « N'aie pas honte de rendre témoignage à Jésus-Christ. » C'est un combat, hein. Mais aussi, « N'aie pas honte de moi. » « N'aie pas honte de parler de moi. » C'est un combat parce que tu vas avoir du mépris. Le forgeron va te mépriser. C'est un combat. Mais continue et que personne ne méprise ta jeunesse. Combattre dans tous les domaines, je vais finir là. Il y a une parole qui m'a étonné dans l'épître à Timothée. Il faut que tu saches comment on se conduit dans la maison de Dieu. Il faut que tu saches comment on se conduit. La maison de Dieu, c'est pas la fête foraine, c'est pas la foire. La maison de Dieu, c'est un rassemblement saint, un rassemblement où Dieu est présent, où l'on apprend à faire silence devant lui dans son cœur, où l'on arrête toute mauvaise pensée, toute parole vaine ou méchante. Dans la première, l'épître aux Éphésiens, l'apôtre dit « La maison de Dieu, c'est l'habitation de Dieu, c'est un temple saint, avec des hommes, avec la stature du Christ, c'est un temple fort, chacun est une colonne de la maison de Dieu, c'est beau, c'est fort. » En arrivant quelques années plus tard, avec Timothée, l'apôtre Paul, il dit « Je veux que les femmes soient vêtues avec pudeur. » Ah bon ? Qu'elle soit dans la décence et la modestie. J'en ai déduit que dans l'église d'Éphèse, il y avait des gens qui n'avaient pas de pudeur, pas de décence, pas de modestie. Ils avaient des belles parures à côté des esclaves qui étaient dans l'église. Alors l'apôtre Paul dit, il faut que tu remettes de l'ordre en tout cela et que tu puisses combattre en toutes choses. Puis je sens que, je regarde l'heure pour ne pas dépasser, je sens que l'apôtre Paul, il en prend un peu, pas son parti, mais il est un peu blasé. Il dit, vous savez, dans une grande maison, il y a des vases en or qui servent pour des belles choses, il y a des vases en argent, et puis il y a des vases en terre. On ne fait pas grand-chose avec, on y met quelques petites affaires, un vide-poche. Il dit dans l'Église, il en est de même. Il y a des chrétiens qui font des belles choses, qui sont comme des vases en or. Et puis il y a des chrétiens qui sont d'un usage pas très bien, ils ne font pas grand-chose, ou ils font du mal. Ça, c'est dans l'Église, il y a un peu de tout. Alors, il faut apprendre tout cela pour combattre. Il ne faut pas que l'Église soit un lieu de divertissement. L'Église, c'est un camp d'entraînement où chaque chrétien éveillé apprend à résister, à choisir la bonne part, à ne pas se décourager, à renoncer. On apprend, j'apprends chaque jour à rechercher Dieu, à vivre avec lui, à mourir un peu pour lui. Paul dit à Timothée, « Tu as suivi de près ma douceur, mes résolutions, tu m'as suivi de près. » Il faut des modèles dans l'Église. Que Dieu fasse de notre Église une Église qui combatte et qui avance. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens passifs ni poussifs. Nous ne voulons pas nous habituer à la médiocrité spirituelle. Quelqu'un me disait, moi je veux l'évangile tout simple, le Notre Père, le psaume 23, ça me suffit. Non, non, non. Je crois que si Dieu nous a donné un tel ouvrage, un tel livre, une telle révélation, il faut grandir, il faut davantage aller dans les chemins, parfois un peu difficiles. J'ai étudié les psaumes pour la radio, et au début, le psaume me paraît comme une noix dure. Alors je casse la noix, et dedans c'est bon. Alors il faut ne pas s'habituer à la médiocrité, à la petitesse ou petites choses. Il faut grandir. Notre combat, c'est de pouvoir dire quand nous arrivons là-haut. Vous savez, j'y pense tous les jours. Quand nous arrivons là-haut, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Voilà. C'est un combat à la vie. Contre la maladie, contre les fatigues, contre les chagrins, contre les deuils. Il ne faut pas bouger dans sa foi. Et puis, c'est mon dernier mot. Paul, il dit à Timothée, « Oh Timothée, oh Timothée, oh !» Il supplie, « Oh Timothée, garde le dépôt. » Ça veut dire, garde ce qui t'a été confié. Ne dépose jamais les armes. Ne te vide pas de ce que Dieu t'a donné. Même plus tard, quand tu auras 90 ans, reste le combattant du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous prions le Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans ce combat, afin que nous arrivions heureusement dans ta maison céleste, après avoir combattu le combat pour la foi, le combat de la foi. Nous voulons, Seigneur, être sur nos gardes, car l'esprit du monde peut vider l'Église de ce qui en fait la force et le feu. Seigneur, que ton esprit nous remplisse et que nous soyons capables de redire comme l'apôtre Jean, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est contre vous. Bénis-nous, Seigneur, ce matin tous ensemble. Bénis particulièrement les frères et sœurs qui vont prendre le baptême, afin qu'ils entrent dans le combat avec nous. Bénis ceux qui se sont découragés, ceux qui n'ont plus de goût pour l'Église, qui n'ont plus de goût pour la lecture des Écritures. Bénis ceux qui sont peut-être chahutés par des péchés, des tentations, des découragements. Seigneur, apprends-nous à combattre au nom de Jésus. Amen. À celui qui sera vainqueur. Vous connaissez cette parole? Ça veut dire qu'à la fin, il n'y aura que des combattants. À celui qui sera vainqueur.